poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Aujourd'hui, roman, poème et poème d'amour, ou comment conjurer la gravité de l'existence, ou du moins le tenter.
When, petite sœur, we'll just have to remember. I'll be down no more, the old dancing music sound. All day long in my gown, when I will be down.
Mathieu Bogart chantant Souchon, une musique qui trotte dans votre livre L'Option légère. Victor Pouchet, bonjour. Bienvenue à vous, romancier, poète. Vous signez aux éditions Gallimard un roman-poème, c'est ce que dit la couverture en tout cas. Traversée d'un mois d'août entre chagrin amoureux du héros et reconquête de l'être aimé. Et pour ce faire, un programme ambitieux qu'annonce son titre. L'option légère, donc, et que confirme l'entrée en matière du premier chapitre. C'est l'histoire d'un homme qui tente de survivre dans la grande ville. Il essaie, avec des poèmes, de ranger le monde, ou bien de faire quelque chose comme une révolution. A priori, deux mouvements contraires. Est-ce que, au fond, ce serait un peu la même chose, ou est-ce que ce sont les deux seules options face au chaos ?
Face au chaos, ouais, j'ai l'impression de traverser, je pense qu'on est nombreux à avoir cette impression de traverser la vie comme un grand chaos, un grand désordre, et de chercher en permanence des moyens de l'alléger ou de quitter le chaos pour remarcher, pour que les choses s'ordonnent. Et un des moyens que j'ai trouvé, mais je pense que chacun trouve ses moyens, certains font la vaisselle de façon obsessionnelle, rangent leur appartement, font des collections de pins ou que sais-je. Moi, un des moyens que j'ai trouvé, c'est de ranger les émotions qui me traversent dans des vers qui font parfois 8 syllabes, parfois 6, et d'un coup, j'ai l'impression pendant un court moment, de trouver un état d'harmonie. Mais alors évidemment, un peu, c'est comme quand on fait de la pâte à modeler, ensuite on rebrouille la pâte et le chaos reprend, mais pendant un court moment, j'ai échappé, je me suis un peu échappé dans la légèreté, et ce qui fait que je ne nie pas la catastrophe, mais je tente de l'aborder un peu différemment.
Alors, ce serait quoi une révolution ? On comprend bien le fait du poème qui pourrait ranger le monde, mais l'option révolution ?
La révolution, c'est un mot un peu trop grand, évidemment, et en même temps, quand on le prend au sens littéral, la révolution, c'est quelque chose qui opère, qui fait tourner, et donc je cherche une façon de tourner autour du monde pour l'aborder différemment, me mettre à distance et retrouver dans ce monde-là quelque chose, peut-être de l'ordre de l'enfance, qui d'un coup me sort du sérieux. Donc la révolution serait une révolution non sérieuse, si ça existe.
En même temps, vous écrivez quand même « Je dépense des poèmes pour me plaindre encore et encore, mais il faudrait que chaque vers renverse l'ensemble du monde ».
Je suis pris par des ambitions immenses et par mes capacités limitées, mais je continue à rêver d'un poème définitif, du poème qui va me réconcilier avec la vie, me permettre d'être complètement léger, et puis ensuite le monde reprend sa place, et elle n'est pas forcément révolutionnaire.
Rangement ou révolution, les deux de toute façon sont affaires de rythme.
Pour moi, c'est une façon de trouver un rythme, trouver quelque chose qui fasse chanter la vie pendant un moment. Et j'ai en fait en permanence moi des vers dans la tête et des chansons, et les choses se mélangent parce qu'on peut passer de Villon à Souchon qu'on a entendu, à Bogart, à Balavoine, enfin une sorte de voix off comme ça. Comment ?
À Rosalia aussi.
Ouais, voilà, Rosalia. Il y a plein de choses, et ces chansons, elles m'accompagnent, elles me permettent de supporter quand même un peu la vie.
Faire les courses, déménager, emménager, dormir, manger, essayer de dormir, téléphoner, attendre que le téléphone sonne, prendre le train, le ferry, écrire, marcher, disparaître, ou en tout cas avoir la tentation de la disparition, chercher des solutions, danser, adresser des poèmes. 111 poèmes, soit dites-vous, 33 poèmes de la grande ville, 13 poèmes d'amour, 12 poèmes corse, 10 poèmes révolutionnaires, 8 poèmes à gros budget, 5 poèmes impatients, 4 poèmes de fête, 3 poèmes de nuit, 1 poème phosphorescent, météorite, feu d'artifice et quelques autres encore. Et page 79, dans le roman poème, Victor Pouchet, vous écrivez « Sur Internet, certains débattent pour savoir si en comptant tout dans le monde, il y a plus de portes ou de roues. Et je crois que cette question vertigineuse mérite un peu qu'on s'y arrête. Est-ce que ça compte de compter ?»
Ça compte, ça rassure. En effet, j'ai tenté, après avoir écrit tous ces poèmes, de les ranger dans des cases, puis ensuite je les ai redébrouillés. En fait, moi j'écris ces poèmes dans une sorte d'état d'hypnose, à mesure que la vie avance tous les jours, et à un moment, je me dis que je vais les ranger pour fabriquer un roman. Et c'est un moment assez joyeux, où un peu comme un puzzle, je réorganise les poèmes que j'ai écrits en tentant de trouver le fil qui les unit. Et donc je les compte, et c'est vrai que j'ai cette sorte de tendance à compter les choses. Je rêve de décomptes un peu absurdes, comme de savoir combien de nems j'ai mangé dans la vie, par exemple. J'ai tenté de faire ce calcul. Et je sais pas très bien à quoi ça sert.
C'est une forme de rangement aussi.
Ouais, c'est une forme de rangement, de comptabilité de sa vie qui, d'un coup, met un peu d'ordre.
Un été, donc, en poème qui forme comme une odyssée, une épopée, enfin on y reviendra sur ces termes-là, avec son héros perdu dans son amour perdu. Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Victor Pouchet, de l'un de ses poèmes ?
Je voudrais par ce poème réussir à changer de manière de vivre et d'écrire. C'est peut-être demander beaucoup à la poésie, mais tu vois, c'est le mois d'août, je n'ai rien à faire d'autre. Le poème des poèmes m'apprendra enfin, j'espère, à nommer vraiment mon désir, courir tout droit vers mes buts, tout simplifier, même ce qu'il nomme littérature. Faisant ce que tu voudras, je m'en vais à la piscine.
Et vous écrivez aussi, regarde-le, c'est le poème, très sûr de lui, qui avance fier, sans demander à quiconque un passeport pour exister. Ses chevaliers, à contre-temps, dansent tout nus, de rien à honte, très très content, d'ici très peu, de t'embrasser au coin des lèvres. Poèmes du quotidien, mais aussi poèmes qui disent ce qu'ils font et ce qu'ils espèrent du poème. En fait, dans le même temps, sont à la fois des poèmes narratifs et à la fois des poèmes qui disent ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous espériez ou qu'est-ce que vous espérez du poème ?
J'espère du poème qu'il vienne... c'est un peu pour moi comme une sorte de sismographe qui vient noter les tremblements d'un moment. Et donc j'espère du poème qui vienne nommer l'émotion qui me traverse. Je pense assez souvent à la réflexion qu'avait faite mon neveu Noé. Quand il avait 5 ans, il s'apprêtait à prendre le ferry qui le faisait quitter la Corse, et donc la fin des vacances. Et il a dit à sa mère, je crois que je suis en train d'avoir une émotion. Et j'adore cette phrase et cette émotion. Il n'arrivait pas vraiment à la nommer du haut de ses 5 ans. Et moi, le poème me sert à tenter de nommer une émotion qui est souvent en effet contradictoire, qui est mêlée d'un peu de nostalgie, d'un peu d'espoir, de joie. Et donc j'essaie de débrouiller les choses. Et le poème donc me permet de saisir ça, de saisir le grand écart des émotions à un moment donné.
Vous écrivez aussi que les mots me retiennent de disparaître encore.
Oui, je m'accroche en effet, il y a dans ces poèmes une sorte de programme, et le poème va noter des inquiétudes, l'inquiétude de fuir, l'inquiétude d'être pris par une forme d'esprit d'abandon du monde, de désespoir, et le nommer me permet un peu d'y échapper pendant un moment en tout cas.
Alors, vous dites, Victor Pouchet, vous dites, je ne sais pas si c'est vous qui dites, roman-poème, avec à chaque chapitre en italique des petits textes qui annoncent et font le point sur le héros. Par exemple, notre héros fait face à des tas de cartons de choses qu'il faudrait déballer, mais à la place, il pense à des trucs tristes, c'est pas très malin. Ou encore, chapitre 4, le téléphone sonne et notre héros est obligé de s'interrompre dans ses lamentations, c'est dommage. Il était drôlement bien lancé. Ou encore, il dévale les escaliers, il a un air triomphant et marche dans les rues presque vides, comme si toute la ville s'ouvrait devant lui et que son corps ne pesait plus rien. Il se sent prophète ou général d'empire. Il était question d'odyssée, d'une certaine façon, déjà dans votre premier roman, paru en 2017, qui s'appelle toujours d'ailleurs « Pourquoi les oiseaux meurent », qui lui aussi hésitait un peu entre inquiétude, découragement et joie. Votre dernier roman-poème, « La grande aventure », misait lui sur l'épopée. Cette fois, on a l'impression que vous hésitez un peu entre les deux. Qu'est-ce qui se trame pour vous dans ces termes-là, dans ces genres-là, pour que vous y retourniez, pour que vous en retourniez un peu la forme, mais pour que vous y retourniez? Est-ce que c'est une certaine idée du héros ou est-ce que c'est une question de forme ou une question de lecteur?
Je pense que je cherche à faire en sorte que ma vie, qui est tout à fait aussi ordinaire que celle de plein de gens, puisse devenir une aventure, puisse sortir de ses gonds et d'un coup, je suis dans le métro, je suis en train de faire la vaisselle, j'observe des travaux dans la rue, et d'un coup, je vais imaginer que la pelleteuse n'est pas simplement en train de creuser, mais qu'elle recherche un trésor caché, le trésor de Monte Cristo, rue de Clignancourt. Et en fait, le roman d'aventure me permet d'ordonner ça. Et là, c'est un roman d'aventure qui est aussi ironique, parce qu'il y a cette voix que vous avez citée, la voix du narrateur, qui est aussi une sorte de voix off, et qui vient un peu regarder le poète à distance, et sourire de parfois du sérieux que peuvent contenir les poèmes. Et j'aime bien ce roman, plutôt du côté du picaresque, où il y a à la fois de l'aventure, mais il y a une sorte de regard amusé du narrateur sur l'aventure qui se déroule.
Ça donne par exemple tout pile au centre du livre, page 111. Alors moi je pensais que c'était fait exprès, mais vous m'avez dit que pas du tout. Je dis ça aussi parce que, juste pour signaler au passage que vous avez aussi été membre du jury du prix de la page 111,
c'est
si
vrai.
Je ne me trompe pas. Ce poème-là, que vous pouvez peut-être nous lire, qui se trouve donc page 111.
Tu sais, on peut très bien imaginer l'histoire de marins qui ne veulent pas vraiment revenir. Ils cherchent juste au fond à faire 2-3 détours pour que de leurs errances, on puisse faire quelque chose. Récit ou épopée, un film en Super 8. Tu les vois toi aussi, les sirènes, les camions de poubelles magiques et les passants qui passent, très forts comme des ombres. Et l'île de Circé, on la distingue au loin. Quand on a traversé les tempêtes immenses et la ville pleine d'angoisse, on rentre à la maison pour écouter Laëde raconter l'Odyssée, comme si on l'avait éprouvée pour de vrai.
Merci. Et vous écrivez aussi à Victor Pouchet au détour de l'un des poèmes, Ulysse, mon seul maître. Je me souviens aussi d'un Ulysse qui faisait personnage dans un de vos romans.
Oui.
Ce serait quoi la leçon d'Ulysse pour vous ?
La leçon d'Ulysse, pour moi, c'est que c'est une leçon à la fois du mensonge et du récit. La force d'Ulysse, c'est qu'il c'est quelqu'un qui raconte ses histoires et qui en même temps les invente en les racontant. Et donc c'est un récit sur la puissance que peut avoir le récit de transformer la vie en une aventure. À partir du moment où on la raconte, si on s'arrêtait, que après cette émission on se mettait à raconter ce qui nous était arrivé et qu'on y cherchait de l'aventure, on en trouverait à mon avis. Alors ça serait peut-être pas un film de science-fiction, mais on ne sait pas. Il reste encore peut-être un quart d'heure pour vivre une aventure extraordinaire.
Sûr, ces petits textes donnent une tournure un peu. Alors, vous parlez d'ironie, donnent peut-être une petite distance, un soupçon de ridicule un peu au héros, malgré tout, façon un peu Don Quichotte, ce héros tantôt découragé et absent et tantôt conquérant. Je me souviens d'une conférence-performance donnée à la Maison de la Poésie, je crois que c'était en 2021, qui prenait la forme de 18 questions auxquelles vous répondiez au moyen d'images, de projections, de textes, de petits films. Et l'une des questions que je vous repose, donc à mon tour, disait « Pourquoi la poésie est-elle ridicule ?»
C'est une question qui est très compliqué, à laquelle j'ai pas la réponse, mais c'est un sentiment que j'ai depuis toujours, et je pense que j'avais sentiment enfant quand je lisais des poètes, je l'ai encore aujourd'hui, à la fois quand j'en lis, quand j'en écris, qu'il y a quelque chose qui est ridicule, et le ridicule est à la fois dans l'aspect parfois grandiloquent, dans le lyrisme total, mais en même temps c'est quelque chose qui est plaisant, enfin c'est un ridicule que je ne rejette pas, et le ridicule c'est aussi, comme on dit quelque chose, c'est ridicule, c'est presque rien, et la poésie c'est ce presque rien qui est toujours à la frontière entre des sentiments trop grands, des paroles trop grandes, on parle un peu trop haut, et en même temps dans cette parole trop haute elle peut parfois se décrocher et redevenir toute petite, et ça fait quelque chose de très précieux. Donc je j'ai pas vraiment la réponse à pourquoi la poésie est ridicule. Peut-être parce qu'elle note ce qui traverse un homme, et ce qui traverse un homme, eh bien c'est toutes les toutes les formes de sentiments, y compris la petitesse et l'aspect très dérisoire de nos vies. Peut-être parce que la poésie a à voir avec le corps et que il suffit d'être face à son corps qui marche, qui parle, pour avoir ce sentiment de ridicule. Donc je sais pas, en tout cas ce ridicule, je ne le rejette pas. Enfin, je tente de l'accueillir, alors de pas me sentir trop ridicule quand je lis des poèmes, mais j'aime bien aussi les poètes qui arrivent en acceptant ça, qui ne sont pas habillés sur leur 31 avec une forme de sérieux énorme.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de cet ordre-là, qu'il faudrait assumer le poème, ou qu'il y aurait une difficulté ou assumer le poème, ou il faut assumer le poème?
Oui, le poème, je l'ai écrit dans cet état d'hypnose où le monde n'existe pas. Et ensuite, je l'imprime, je le mets dans un livre et il m'étonne moi-même parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Enfin, c'est moi dans un autre état que moi-même qui l'écrit. Donc, il faut l'assumer. Et alors, évidemment, il y a des poèmes que je jette, je garde pas tout, mais je les produis et voilà, je fais face au possible sourire qu'il provoque en moi ou pour les autres.
Vous avez publié, signé deux romans pour commencer, puis deux romans poèmes. Les poèmes, eux, ont été consécutifs, si je ne me trompe pas, l'un au confinement, enfin pas consécutifs, même pendant le confinement. Le second a un chagrin amoureux, en tout cas au chagrin amoureux du héros. Est-ce que ça voudrait dire que pour vous, le poème met en ordre la crise ou le chaos mieux que le roman ?
Je ne sais pas très bien, je pense que c'est un autre rythme. Le poème, je l'écris au quotidien, le roman peut-être s'écrit au moment où on a un peu assez de distance pour reconfigurer ce qui nous est arrivé. Et le poème vient noter vraiment ce qui peut être une crise, mais pas simplement une crise, parce que là il y a une crise amoureuse et il y a aussi de la joie, il y a aussi de la résolution. Mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire ces poèmes dans des moments très circonstanciés, le moment du confinement où c'était la seule chose que j'arrivais à écrire, en fait, le roman m'était impossible, et donc le rythme, c'est un peu comme il y a des moments où on fait des photos ou des films, et on capte ça de façon très, très directe. Le rythme du poème correspondait à ce moment très étrange, mais ceci dit, ensuite, je laisse le poème vivre sa vie et je reconfigure un roman, donc j'essaie d'avoir un peu les deux rythmes.
Alors, est-ce que ça veut dire que... Parce que vous dites le poème quand le roman est impossible, hein, quelque chose, si j'ai bien compris, hein, quelque chose un peu comme ça. Est-ce que ça veut dire que là, le poème est arrivé parce que le roman ne pouvait pas advenir, ou est-ce qu'il a fallu, vous en a fallu passer par le roman pour en arriver au poème? Parce que là, c'est les dernières choses que vous avez publiées.
Je pense que ma langue maternelle, c'était le poème. C'était les premières choses que j'écrivais quand j'étais enfant, puis adolescent. Et que peut-être parce que j'avais ce sentiment de ridicule trop fort, je n'arrivais pas à assumer ces poèmes. Et que d'un coup, pendant le confinement, je me suis mis à les écrire vraiment pour m'amuser, sans penser à ce qu'ils puissent ensuite intégrer un livre, même en pensant que c'était vraiment des purs jeux et de l'écriture joyeuse, directe. Et donc, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Ok, je me suis autorisé à revenir à la poésie, alors même qu'elle a toujours fait partie de ma vie de lecteur et de ma pratique d'écriture.
Ce titre, ce programme, cette ambition de l'option légère, qui n'est pas mince à faire, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est quoi l'option légère pour de vrai? C'est quoi l'option légère? Ce serait quoi la promesse littéraire, par exemple, de l'option légère?
Alors qu'est-ce que c'est que prendre l'option légère? À mon avis, c'est quelque chose. L'option légère est là parce qu'elle nous échappe. C'est-à-dire que parce qu'il y a quelque chose qui résiste, il y a ce sentiment de chaos dont on parlait, de désespoir, et donc il y a l'envie d'alléger. C'est pas le dénier le drame, mais c'est trouver un autre regard. Et l'option légère, pour moi, et je pense que chacun a sa façon de prendre une option légère, pour moi, c'est de retrouver une part d'enfance dans le rapport au monde et à l'écriture et au réel. C'est-à-dire que d'un coup, je vais transformer un moment en jeu, ou bien pour de vrai, ou bien dans le texte. Et là aussi, qu'est-ce que serait l'option légère de ce moment-là? Je sais pas, ça serait peut-être se mettre à chanter dans le studio ou sortir sur les quais de Seine et faire un film de des passants et de. Enfin, je sais pas. Chacun doit l'inventer. Mais en tout cas, il y a quelque chose moi qui quand j'y pense vraiment est relié à l'enfance et à une façon dans l'enfance dont on a d'être émerveillé par ce qui arrive pour la première fois à nos yeux d'enfant.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Et aujourd'hui à la technique d'Aliya, la réalisation de June Loper avec la collaboration de Virginie Leduo et avec nous Victor Pouchet qui signe L'Option légère, donc aux éditions Gallimard, roman d'amour, roman poème entre Paris au mois d'août et la Corse, où l'on peut entendre cet été-là en tout cas Rosalia, Dany Briand. Je crois l'avoir vu passer, Mathieu Bogart. Et à la radio, ça ce serait peut-être l'option légère et un peu triste. On entend ça.
Manhã tão bonita, manhã na vida uma nova canção. Cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão.
João Gilberto, Mania de Carnaval, entendu dans l'un de vos poèmes, je ne sais pas du tout si c'était cette interprétation-là, Victor Pouchet. Mais il y a aussi Paris, le Ferry, la Corse, quelques souvenirs de Douarnenez. Et qui dit Douarnenez dit Georges Perros, l'auteur des poèmes bleus, d'une vie ordinaire et de papier collé, qui est un poète, un auteur qui compte infiniment pour vous, qui je pense circule dans tout ce que vous écrivez, ou presque. Alors vous avez, vous dites, dans l'un des poèmes d'ailleurs de l'Option légère, vous écrivez « Je me dis parfois que c'est l'homme qui m'aide le plus fort à vivre et à écrire. De point, c'est beaucoup. » À quoi ça tient ?
C'est une rencontre de quelqu'un dont j'ai eu l'impression de qu'il allait être un ami. Quand j'ai lu Une vie ordinaire pour la première fois, j'avais 17 ans et il raconte sa vie en octosyllabes et c'est à la fois une intelligence très exigeante et très douce, un rapport très sérieux et très léger au monde, et une façon de remettre de l'ordre et de faire chanter le chaos dans des octosyllabes prodigieux. Et voilà, vivre est assez bouleversant, écrit Perros, et il réussit à noter ces bouleversements de l'existence avec une force, moi, qui me terrasse et qui me sert d'une sorte de modèle. Il disait, Perros, qu'on n'admire pas quelqu'un parce qu'on admire son style ou sa façon d'écrire, mais on admire quelqu'un parce que c'est un modèle d'existence. Et Perros, je pense, est un des modèles d'existence que j'ai rencontré dans ma vie de lecteur et donc d'homme.
C'est plus, d'ailleurs, c'est davantage ça qui faisait poète pour lui, le mode d'existence ou le modèle d'existence que le poème, à proprement parler. Perros qui disait « J'écris pour me rappeler ce que j'ai à écrire ». Alors qui me fait penser aussi à l'effort de vos poèmes à vous. Et vous écrivez, Victor Pouchet, c'est bien pour m'alléger des phrases qui m'encombrent encore et encore que je fais ça ici, c'est tout. Un simple exercice d'hygiène, je me nettoie des mots qui restent un peu trop longtemps dans ma tête, j'ôte la suie de mon cerveau. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez pour vous débarrasser, qui est un terme que Perros a beaucoup utilisé aussi, hein, qui utilise par exemple l'image de la guêpe, hein, il dit qu'il écrit comme quand une guêpe se pose sur le front pour dégager la guêpe. Il y a quelque chose de cet ordre-là,
ouais,
à écrire.
Il y a quelque chose comme une façon de noter quelque chose, un moment, une émotion, et on la fait exister très fort, et ça nous permet ensuite de passer à autre chose. Et j'aime bien cette idée des notes et des poèmes qui aussi vont disparaître aussi vite que des moments disparaissent.
Ce sont des poèmes du quotidien, des poèmes narratifs, des poèmes drôles, souvent dans leur désarroi, qui est un sillon qui, au fond, est assez peu creusé dans l'histoire de la poésie contemporaine française, en tout cas dans la culture française. Poésie que vous évoquez ici et là dans un poème, je pense par exemple au poème dans lequel vous écrivez « Je ne comprends pas vos poèmes, pas vos romans, pas vos spectacles, je ne comprends pas qu'on se pâme devant ces machines si cryptées ». Et vous terminez en disant « Prenez-nous plutôt par la main pour nous faire tomber ensuite ». Si vous le voulez, pourquoi pas, dans vos précipices d'orgueil, moi, je vais sortir de la salle. Et je rappelle que vous êtes programmateur à la Maison de la Poésie, par ailleurs. Comment est-ce qu'il faut entendre ces vers-là, Victor Pouchet ?
J'aime plein de formes de poésie. J'aime la poésie énigmatique, j'aime la poésie très simple. Et j'aime pas quand on me prend, quand on ne m'accueille pas. C'est-à-dire que j'aime pas quand on met un mur et qu'on me dit, là, cette poésie, elle est trop compliquée, elle est réservée à des lecteurs particuliers, il faut être intelligent. Pour moi, la poésie donne accès à une émotion directe et c'est ce que je cherche comme lecteur et aussi dans ce que vous disiez d'accueillir tout. La poésie, pour moi, c'est un grand écart. Donc, il y a à la fois l'inquiétude, le dérisoire, les chips, et à mon avis la poésie, elle se nourrit à la fois de chips et d'existence, et elle meurt s'il n'y a pas les chips. Alors évidemment, elle ne peut pas être que chips et que joie et humour, mais tout comme nous, elle marche sur différents pieds. Donc c'est ce que je cherche à fabriquer, ce que je cherche à faire en écrivant de la poésie, à accueillir tout. Tout ce qui est possible. Et d'ailleurs, enfin, les grands.
D'où la nécessité de ranger.
Ouais, ranger. Et puis, en fait, c'est ce qu'on fait tous ceux qui me précèdent. À mon avis, il y a toute la vie de Villon, dans Villon, dans Apollinaire. Et il y a les guêtres de Villon et l'inquiétude amoureuse. Enfin, et en fait, c'est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit parfois dans certains rapports à la poésie.
Dans un autre entretien de Perros, il parle aussi de la grande confiance qu'il faut avoir pour montrer ses notes. Lire une note, c'est presque indiscret, dit-il. Est-ce que l'option légère, ce roman-poème-là, est-ce que ça fait de nous des lecteurs de confiance, mais des lecteurs indiscrets ?
Bah, il y a une forme d'impudeur, en effet, et en même temps, je fais en sorte, enfin, j'espère que le jeu et le tu que je construis et qui sont nécessaires au fait qu'il y ait poème, pour un poème s'adresse à quelqu'un, et en effet, que ce jeu et ce tu donc que ce soit un jeu à mi-voix et un tu ouvert, enfin, que ça soit quelque chose qui ne s'impose pas à l'autre pour que justement le lecteur puisse se mettre à la place de ce jeu et de ce tu, et donc que le poème ne devienne ni discours ni sermon, en fait. Donc c'est un équilibre à trouver et que je me sente parfois à nu. Finalement, ensuite, je l'oublie parce que c'est plus moi. Enfin, ce poème existe et il ne m'appartient plus.
Et si ça ne marche pas, alors bon, au début du roman, vous espérez le poème qui rendra tous les poèmes inutiles, qui bien sûr ne vient pas. Le secret du poème qui rangerait le monde, j'imagine que vous en avez fait votre
deuil. Je continue à le chercher, sinon ça, si la vie de la vie serait super triste si j'avais trouvé.
Et si ça ne marche pas, Ranger ou la Révolution, qu'est-ce qui nous reste ?
Bah, il nous reste à parler dans un studio, à lire des poèmes, à écouter des chansons, à tomber amoureux, à s'inquiéter, à aller en Corse, à se nager dans la rivière, plein de choses joyeuses.
L'option légère apparue aux éditions Gallimard. Merci infiniment, Victor Pouchet, d'être venu nous en parler. Poésie et ainsi de suite. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix l'Hebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bon après-midi à toutes et à tous.